Vous écoutez 13 novembre, le temps du procès, le podcast du journal Le Monde qui suit semaine après semaine le procès des attentats du 13 novembre. Pascal Robert Diard, chroniqueuse judiciaire au Monde.
Bien sûr, on aurait dû s'y attendre. La flambée du virus ne s'arrête ni aux portes des prisons, ni à celles des palais de justice. Après Salah Abdeslam, dont la positivité a déjà retardé la reprise des débats, un de ses voisins de boxe vient d'être à son tour testé positif. L'audience, qui devait se poursuivre mardi 18 janvier, est donc renvoyée au mardi suivant, si tout va bien. Non seulement ces interruptions à répétition vont rallonger le temps déjà très long du procès, il est prévu pour durer jusqu'en juin, mais il est à craindre que son atmosphère s'en ressente. Les aléas sanitaires mettent à rude épreuve la patience du président de la Cour d'assises, Jean-Louis Périès, qui a déjà assez à faire pour contenir une audience hautement sensible et promptement inflammable. Et pourtant, il tourne ce procès des attentats du 13 novembre. La semaine écoulée a même été passionnante. Les débats commençaient enfin à aborder le dur, à savoir les interrogatoires des accusés sur le fond. Trois d'entre eux ont été interrogés. Mohamed Abrini, Adel Adadi, Osama Krayem. Trois hommes, trois origines différentes. Belgo-marocain pour le premier, algérien pour le second, suédois pour le troisième. Trois parcours de vie et une même bascule dans l'islam radical qui les a conduits à rejoindre l'État islamique en Syrie. Mohamed Abrini présente un profil singulier. Il a accompagné depuis la Belgique le commando des terroristes dans la région parisienne à la veille des attentats. Il était dans l'une des trois voitures du convoi de la mort, selon sa propre expression, en compagnie de ses amis d'enfance, Brahim et Salah Abdeslam. Puis il est réapparu après 4 mois de cavale sur la vidéosurveillance de l'aéroport bruxellois de Zaventem, le 22 mars 2016, à côté des deux kamikazes qui ont déclenché leurs bombes, faisant 16 morts. Pour une raison inconnue, Abrini a abandonné la sienne sur un chariot. Ici, je vais prendre perpétuité. Après, j'ai un deuxième procès à Bruxelles, je vais encore prendre perpétuité. Qu'est-ce que j'aurai à cacher, a-t-il lancé à la cour. Sa protestation de bonne foi n'a hélas pas tenu ses promesses. Mohamed Abrini s'est montré tour à tour bavard, désireux de bien faire, puis brusquement taiseux, buté, voire insultant, généreux en mensonges et économe en vérité. Il en reste l'image d'un homme qui ne sait ni l'accusé qu'il veut être, ni sans doute l'homme qu'il est. Quand ses frères et sœurs réussissaient leur vie professionnelle, il cumulait les séjours en prison pour cambriolage. Quand son cadet est parti en Syrie et a trouvé la mort en combattant aux côtés de l'État islamique, Mohamed Abrini s'est reproché d'avoir passé sa jeunesse à fumer, à boire et à jouer. Il a voulu rejoindre et honorer la mémoire de son petit frère en épousant sa foi dans l'islam radical. Mais il n'est pas allé au bout de la mission kamikaze qui lui avait été confiée. Lors de son interrogatoire de personnalité en novembre, il avait lui-même résumé sa biographie d'une formule « échec scolaire, échec sportif, échec et maths ». On ignore quel est de tous ces échecs celui qui pèse aujourd'hui le plus sur lui. Adel Adadi est un autre genre d'égaré. En banlieue d'Alger où il a grandi, il était un garçon solitaire, qui appréciait davantage la compagnie des oiseaux, il élevait des chardonnerets, que celle des hommes. Lorsqu'en février 2015, à l'insu de sa famille, il décolle pour la Syrie, il ne sait pas ce qu'il veut faire, dit-il. À cette époque, je me sentais un peu perdu, je me posais plein de questions sur ma vie. Il s'en pose moins quand on lui met une kalachnikov dans les mains et qu'on lui apprend les rudiments du combat entre deux cours de formation accélérée à l'islam. Lorsque Oussama Attar, le cerveau présumé des attentats, le sélectionne pour une mission suicide en France, Adel Adadi ne se pose pas plus de questions. Il me disait « c'est comme ça, alors je faisais comme ça ». Peut-être parce qu'ils avaient compris que je ne pouvais pas dire non, explique-t-il. Adel Adadi précise sa pensée « j'étais quelqu'un de serviable ». Sa serviabilité a heureusement buté sur son incapacité à se faire passer pour un vrai réfugié syrien, d'abord auprès de la police grecque, puis de la police autrichienne, et sa destinée de djihadiste s'est brusquement interrompue dans une prison en Autriche. Adel Adadi assure aujourd'hui n'avoir jamais eu l'intention de se faire exploser. « J'ai dit oui, mais dans ma tête, c'était non », dit-il sans convaincre. D'Osama Krayem, on n'attendait rien. Dès la reprise des débats, l'accusé, né d'un père syrien et d'une mère palestinienne dans un quartier pauvre de Malmö, en Suède, avait fait savoir qu'il refusait d'assister aux audiences et de répondre aux questions. Il a toutefois consenti à venir s'asseoir dans le box le jour de son interrogatoire, mais il est resté totalement mutique. Je ressens que nous faisons tous semblant et que ce procès est une illusion, avait-il écrit dans une lettre lue par son avocate. Cette attitude résolument hostile renforçait l'image déjà très sombre de cet accusé, qui est parti à 19 ans combattre en Syrie et qui a été identifié sur l'une des vidéos les plus terrifiantes de la propagande de l'État islamique. Osama Krayem fait en effet partie des hommes qui assistent à l'exécution d'un pilote jordanien enfermé dans une cage et brûlé vif. Une enquête pour crime de guerre a été ouverte contre lui en Suède. Il est aussi accusé d'avoir projeté un attentat à l'aéroport d'Amsterdam le jour même où étaient commis les attentats de Paris, le 13 novembre 2015. Il est enfin l'un des terroristes qui, en mars 2016, devait commettre un attentat suicide dans le métro de Bruxelles pendant que ses complices se faisaient exploser à l'aéroport. Mais il a renoncé au dernier moment à déclencher sa bombe. Il fallait donc se résigner à ne rien apprendre de plus que ce qu'il avait dit de lui pendant l'instruction. Le président lisait ses déclarations, dans lesquelles il assumait clairement son engagement. « Je suis un soldat de Daesh. J'adhère à sa philosophie de manière inconditionnelle. La sanction pour celui qui se moque du prophète est la mort », disait-il. On en était là de l'effroi lorsqu'un homme aux cheveux grisonnants et au regard doux derrière ses lunettes s'est avancé à la barre. De tous les témoins cités pour parler d'Osama Krayem, Pierre-Jean S. a été le seul à se présenter. Pendant 4 ans, à raison de 2 cours d'une heure et demie par semaine, ce professeur de mathématiques belge, catholique engagé, a accepté de donner bénévolement des cours de français à Osama Krayem. De lui, Pierre-Jean S. savait le minimum, qu'il était accusé d'avoir voulu commettre un attentat à Bruxelles, qu'il était un détenu particulièrement surveillé et placé à l'isolement, dont le moindre déplacement nécessitait de lourdes mesures de sécurité. Après, le professeur en a appris davantage en écoutant la radio et en lisant les informations. Et il s'est demandé s'il allait pouvoir continuer à aller en prison pour enseigner en tête-à-tête à cet élève. Je me suis dit, lui ou un autre, j'y vais. Je renonce à le considérer comme un barbare. C'est le seul chemin tourné vers l'avenir. Et le professeur a parlé de l'homme qu'il a rencontré, respectueux, attentif, désireux d'apprendre, lui demandant si, en français, les mots « avouer » et « confesser » avaient le même sens, ou si le mot « parloir » signifiait un endroit où l'on vous obligeait à parler. Pierre-Jean S. prenait toujours quelques secondes de réflexion avant de répondre aux questions qu'on lui posait. À un moment, il a dit que, oui, il y avait chez Osama Krayem un espoir, une parcelle d'humanité. Quelques avocats de victimes des attentats ont protesté. Fallait-il prononcer ce mot-là, pour cet accusé-là, dans ce procès-là ? Les mots du professeur ne changent rien au crime dont Osama Krayem est accusé et à la peine de perpétuité qu'il encourt. Mais l'intérêt d'un procès d'assises, quel qu'il soit, c'est aussi ça. Entendre et écouter des mots que l'on n'attendait pas.
C'est la fin de cet épisode. Pour retrouver l'ensemble des articles de nos journalistes mobilisés à la Cour d'assises spéciale, rendez-vous sur la rubrique « Procès du 13 novembre » sur lemonde.fr. Et pour écouter quotidiennement, en podcast, nos journalistes raconter et expliquer l'actualité du jour, retrouvez notre podcast « L'heure du monde » sur Spotify et lemonde.fr. À bientôt.